Voici le journal de Sébastien Legenis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, le scandale Lactalis qui fait tache d'huile. Il s'étend à plusieurs enseignes de la grande distribution après Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, Intermarché et Cora reconnaissent de grosses failles dans leur appel de produits pourtant retirés de la vente. C'est le dossier de ce journal. Autre grand titre, le projet de loi Asile et Immigration qui attise la tension entre l'État et les associations de défense des migrants. Elle s'apprête à saisir la justice. À 8h20, Marc, les neurosciences vont-elles révolutionner l'école? On en parle avec l'un des meilleurs spécialistes du cerveau.
Oui, faut-il réécrire les manuels scolaires à la lumière des dernières découvertes scientifiques sur le cerveau? C'est ce que souhaite le ministre de l'Éducation. Il vient d'installer un conseil scientifique hier soir à sa tête. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, il est avec nous ce matin. Vos questions 01 45 24 7000.
Au menu également le premier round aujourd'hui des négociations sur l'assurance chômage et la question des sanctions des chômeurs. Difficile à appliquer, on le verra. Le Grand Paris va-t-il faire disparaître les trois départements autour de la capitale? Les élus locaux s'inquiètent, mais l'exécutif temporise. Des militants politiques poursuivis en justice pour avoir détourné l'adresse mail d'Emmanuel Macron. Et de la sculpture avec l'exposition étonnamment moderne d'un contemporain de Rodin. L'affaire Lactalis éclabousse désormais les stars de la grande distribution. Ce sont six grandes enseignes qui avouent avoir écoulé des centaines de lots, pourtant frappés par une procédure de rappel. Après Leclerc, ce sont donc Auchan, Carrefour, Système U, Cora et Intermarché qui ont reconnu de gros trous dans la raquette et qui s'excusent pour certaines d'entre elles auprès de leurs consommateurs. Bonjour Nasser Madji.
Bonjour.
Vous suivez pour nous ce nouveau scandale alimentaire. Alors au total, près de 2000 produits ont été vendus alors qu'ils n'auraient jamais dû l'être.
Bah par exemple, Auchan a vendu 52 boîtes de lait contaminées. Le groupe de distribution Système U a annoncé de son côté avoir écoulé 384 produits Lactalis incriminés. L'enseigne Cora est également concernée avec 72 ventes. Alors des dizaines et des dizaines de milliers de produits potentiellement contaminés à la salmonelle ont été retirés des rayons. Toutes les enseignes, vous le disiez, ont présenté des excuses ou des regrets à leurs clients. On verra dans quelle mesure maintenant la responsabilité de ces géants de la grande distribution est engagée. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte et les plaintes de consommateurs vont se multiplier. Plusieurs enseignes pour réponse ont lancé des audits internes et pour améliorer leur logistique en cas de crise. Et Intermarché indique aussi, par exemple, que désormais, tous les produits faisant l'objet d'un rappel seront automatiquement bloqués en caisse.
Alors, la grande distribution risque gros hein, dans cette affaire. Vous le disiez, des centaines de familles ont l'intention de porter plainte et pour se défendre, le discours des grandes enseignes est très claire, accusée, chargée Lactalis. Et cet Intermarché qui est ce matin le plus critique, écoutez son PDG Thierry Cotillard.
Ce qu'on est en train de vivre avec Lactalis, c'est quelque chose que j'ai jamais vu en France. Ça fait 20 ans que je suis dans la distribution et je pense qu'il n'a pas assuré véritablement l'ampleur de la crise. Et donc moi aujourd'hui, je considère que ce ne sont pas mes consommateurs d'emporter le préjudice. Et donc on a une position aussi radicale sur le sujet puisque plus aucun produit de la marque Milumel ne sera distribué chez Intermarché, et ce, de manière définitive.
Le PDG d'Intermarché, Thierry Cotillard, au micro de Benjamin Illy, qui pointe donc du doigt Lactalis, un industriel, Nasser Madji, je reviens vers vous, un industriel accusé d'avoir des pratiques très opaques.
Hein. C'est vrai que les enseignes de grande distribution, c'est bien normal, sont montrées du doigt, mais elles ont l'air de bonne foi, si vous voulez. Depuis quelques jours, c'est vrai que c'est le comportement de Lactalis dans cette affaire qui pose beaucoup de questions. Car ce qui a provoqué cette panique dans la chaîne de distribution du producteur aux différentes enseignes, c'est la succession de rappels. La première alerte chez Lactalis, c'est le 2 décembre sur quelques produits, puis le 10 décembre, mais seulement après une intervention assez ferme d'ailleurs du ministère de l'économie. Et ce n'est que le 21 décembre que l'industriel procède au rappel de l'ensemble de ses laits et autres produits infantiles élaborés donc dans cette usine de Cran. Mais c'est trop tard, les atermoiements de Lactalis ont complètement désorganisé la logistique des magasins de grande distribution. Ça fait des jours à France Inter qu'on sollicite la direction de Lactalis qui refuse obstinément de communiquer. On rappelle quand même, on l'a pas assez dit, que 35 nourrissons ont été atteints de salmonellose, 18 hospitalisés, et ce silence de l'industriel, évidemment, est jugé choquant par les familles des victimes.
Nasser Madji du service économique de France Inter, merci. Noté pour terminer cette sortie hier du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui juge l'affaire sérieuse et inacceptable et promet de se saisir du dossier dans les heures qui viennent.
8h05 sur Inter, le bras de fer continue entre les associations d'aide aux migrants et le gouvernement.
Le Premier ministre Édouard Philippe les reçoit reçoit cet après-midi à Matignon pour évoquer le très sensible projet de loi Asile et Immigration. Médecins sans frontières a déjà décidé de boycotter la réunion et plusieurs associations mettent la pression en lançant dès aujourd'hui une offensive judiciaire. 21 d'entre elles s'apprêtent en effet à saisir le Conseil d'État pour réclamer la suspension d'une circulaire très controversée, la circulaire permettant le recensement des migrants dans les centres d'hébergement, un dispositif totalement illégal selon Maître Patrice Spinozzi qui représente les associations.
Lorsque vous avez une personne qui est en très grande difficulté, en très grande précarité, elle a le droit, sur le sol français, à pouvoir bénéficier d'un hébergement d'urgence. Cela a toujours été le cas. C'est un des principes de l'accueil en France et c'est ce principe que les circulaires essayent de casser en créant une discrimination selon la nationalité, selon le statut administratif de la personne, en créant une réalité, une préférence nationale, en disant, quel que soit votre état de précarité, vous n'aurez droit à l'hébergement d'urgence qu'à partir du moment où vous êtes français, à partir du moment où vous êtes un bon réfugié. Ça n'est pas le sens de l'accueil et ça n'est pas le sens de l'image qu'a toujours donné la France vis-à-vis des migrants.
Maître Patrice Spinozzi au micro de Julie Pietri, un dossier retrouvé sur notre site franceinter.fr avec un zoom notamment sur les incohérences européennes en matière de droits des réfugiés. Les réfugiés qui pour une partie parviennent à rejoindre l'Europe mais qui pour une très grande majorité restent piégés dans leur région d'origine. C'est l'histoire tragique ce matin de ce père de famille syrien réfugié dans le pays voisin au Liban et qui a tenté hier matin de s'immoler devant les locaux des Nations Unies. Un geste dramatique pour dénoncer la décision onusienne de stopper certaines distributions d'aides alimentaires. C'est un reportage de notre correspondant au Liban, Omar Waman.
Rapidement secouru, Riyad Zibou, 43 ans, est transporté à l'hôpital Salam de Tripoli, dirigé par le docteur Gabriel Sabé.
Il est arrivé dans un état gravissime. Ces brûlures avoisinaient les 35% de la surface corporelle. C'est des brûlures de troisième degré, absolument.
Privé de l'aide des Nations Unies depuis près de 4 mois, ce père de famille a très vite accumulé les dettes. Il raconte le corps désormais recouvert de bandages, ce qui l'a poussé à vouloir commettre l'irréparable.
Je me suis présenté au bureau des Nations Unies, il était 9h du matin, je leur ai dit « aidez-moi ». Donnez-moi de quoi nourrir mes enfants. Nous ne recevons plus rien. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire pour nous. J'ai crié, dans ce cas, je vais mourir devant vous. Je vais m'immoler par le feu.
Une menace que Riyad Zibou met à exécution pour dénoncer sa situation qui est aussi celle de milliers de réfugiés syriens au Liban.
J'ai 4 enfants, je ne peux pas les nourrir. Pourquoi continuer à vivre? Je travaillais comme cireur de chaussures, mais le peu que je gagnais, je le dépensais dans les taxis pour me déplacer. Il ne me restait plus rien à la fin pour subvenir aux besoins de mes enfants.
L'hospitalisation sera longue, au moins 2 mois. Riyad Zibou voudrait, après cette période, rentrer chez lui en Syrie avec sa famille. Tripoli, Omar Waman, France Inter.
En bref, à l'étranger, la tension ne retombe pas en Tunisie avec une 3e nuit de violence. Nouveaux accrochages entre policiers et manifestants dans plusieurs villes. Jets de pierre et cocktails Molotov sur des agents de sécurité, notamment à Siliana, dans le nord-ouest du pays, où des jeunes ont tenté de s'introduire dans un tribunal. À noter aussi cette étrange sortie d'un officier du Pentagone sur la façon de tuer les djihadistes de Daesh. Dans un tweet, un responsable de l'état-major américain a suggéré d'achever les combattants islamistes à coup de pelle s'ils ne se rendaient pas aux forces de la coalition. Une arme formidable selon l'adjudant John Troxwell.
8h09 sur France Inter, la réforme de l'assurance chômage, c'est parti.
Un début aujourd'hui des négociations entre partenaires sociaux, patrons et syndicats se retrouvent au MEDEF. Ils ont un mois pour trouver un accord. Sur la table, plusieurs points chauds. L'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires, un bonus malus pour limiter les contrats courts et le contrôle des chômeurs. Le gouvernement, on le sait, envisage d'alourdir les sanctions contre les demandeurs d'emploi qui refuserait 2 offres de travail jugées raisonnables. Un concept qui toutefois reste bien difficile à appliquer sur le terrain. Le reportage de Laurent Kramer.
Appel en cours.
Ça serait pour prendre rendez-vous.
Surchargés de dossiers, les conseillers Pôle emploi n'appliquent aujourd'hui jamais de sanctions pour une offre refusée. Au chômage depuis 2 ans, Emeline, âgée de 50 ans, est inquiète sur la façon dont cette mesure pourrait s'appliquer.
Il faudrait que ça soit sur mesure, mais je pense qu'avec les volumes qu'ils ont à traiter, ça ne peut pas être sur mesure. Donc ça risque d'être un peu un contrôle, on va dire, administratif, sans nuance, sans adaptation au cas particulier.
La ministre du Travail assure que les conseillers Pôle emploi feront du cas par cas, aidés bientôt par un logiciel mon assistant numérique, d'aide au pilotage des dossiers, le gouvernement prévoit 2 mois d'allocation réduite ou supprimée après 2 refus d'offres d'emploi. Mais les critères pourront-ils être appliqués sans injustice, se demande Raphaël, 30 ans, prêt à faire de nombreux kilomètres pour trouver un emploi dans la grande distribution.
Je suis jeune célibataire, donc un emploi précédent, je faisais 1h30 le matin, 1h30 le soir. C'est faisable. C'est sûr que pour des parents, une mère de famille, ça reste critère à appréciation par chaque personne. Comment est-ce que l'État va qualifier une offre raisonnable ? C'est extrêmement subjectif et ça dépend des gens.
Les conseillers Pôle emploi redoutent des directives trop strictes issues du gouvernement. En coulisses, les partenaires sociaux estiment avoir fait la démonstration dans les cabinets ministériels que ces sanctions ne pourront pas sur le terrain être appliquées.
Laurent Kramer, des services économiques de France Inter. Jusqu'où Paris doit-il s'étendre ? Voilà un autre dossier chaud à trancher pour l'exécutif en ce début d'année. Le serpent de mer du Grand Paris. Les contours de la métropole parisienne doivent-ils s'arrêter aux limites du périph' ou doivent-ils absorber ce qu'on appelle la petite couronne, les 3 départements limitrophes, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis ? Cette deuxième hypothèse inquiète fortement l'Association des départements français qui se réunit aujourd'hui. Mais à l'Élysée, on reste pour le moment très évasif. Karine Bécard.
Emmanuel Macron est officiellement toujours en phase de réflexion. Depuis des semaines, le président consulte les politiques, les acteurs économiques, sans oublier bien sûr les urbanistes. Seulement, toutes ces consultations ne lui ont pas permis de prendre sa décision. En réalité, il a devant lui 2 solutions. La première, le président choisit de faire coller les frontières de cette nouvelle métropole avec celles de la région. Ce qui signifie privilégier la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, au détriment de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, mais ce ne serait pas l'option privilégiée. Quelques députés de la majorité, chargés de travailler sur le dossier, pousseraient Emmanuel Macron vers un autre scénario. Supprimer les 3 départements qui entourent la capitale, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, pour créer cette nouvelle entité. Ce qui signifie cette fois privilégier Paris au détriment de la banlieue. Voilà pourquoi, arrivé à l'Élysée, Emmanuel Macron promettait de trancher dès l'automne avant de repousser à la fin de l'année, puis désormais à février, parce que le président sur le sujet est sacrément coincé.
On reste à Paris avec ce braquage spectaculaire sur la place Vendôme, pourtant l'une des plus sécurisées de France. Braquage du Ritz à la hache hier soir à la tombée de la nuit. Après avoir brisé les vitrines de l'hôtel de luxe, 5 hommes cagoulés déguisés en peintres bâtiments ont emporté plus de 4 millions d'euros de bijoux. 3 d'entre eux ont été arrêtés, 2 autres sont toujours dans la nature.
Pour eux, c'était une blague potache entre militants politiques, mais elle pourrait leur coûter très cher.
2 hommes, dont un proche de la droite conservatrice, seront jugés en mars prochain pour avoir usurpé l'adresse mail d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. La blague n'a pas eu le don de faire rire le futur président qui a même porté plainte, Corinne Audouin.
2 jours avant le premier tour de la présidentielle, une centaine de destinataires reçoivent un mail intitulé « 10 bonnes raisons de ne pas voter pour moi ». Il émane d'un compte Gmail au nom d'Emmanuel Macron. Le texte dénonce en vrac la proximité du candidat avec le PS et la finance, la vente d'Alstom ou les propos radicaux d'un ex-cadre d'En Marche. Emmanuel Macron porte plainte le lendemain de sa qualification pour le deuxième tour. Les auteurs du mail sont 2 trentenaires, dont un militant de droite, tendance conservatrice. Pour son avocat Henri de Beauregard, l'intention parodique était évidente.
C'est un mail qui est un pastiche politique dont personne ne peut penser qu'il émane bel et bien d'Emmanuel Macron. Pendant la campagne, on reçoit tous des mails plus ou moins exacts, plus ou moins drôles. Tout ça a pris des proportions sans la moindre mesure avec la réalité d'un envoi potache. Voilà.
Jugés pour usurpation d'identité, les 2 hommes encourent 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, des poursuites abusives selon l'avocat.
Le président Macron a par ailleurs fait savoir qu'il envisageait un projet de loi sur la répression des fake news. Je pense que s'il prend ce type de mail pour une usurpation d'identité, on peut se demander ce qu'il prendra demain pour une fake news. Et ça, je trouve ça préoccupant.
Décidé à ne rien laisser passer, le candidat Macron avait également porté plainte contre la rumeur d'un compte aux Bahamas. L'enquête est toujours en cours.
Corinne Audouin du service police-justice de France Inter.
On termine avec une exposition de sculpture d'un proche de Rodin, moins connu, mais tout aussi talentueux.
Il s'agit d'Antoine Bourdel, une exposition pour redécouvrir ce sculpteur fasciné par les formes antiques, mais dont le style était d'une modernité étonnante. Isabelle Pasquier.
C'est fou comme ce torse de Pallas, la copine d'Athéna, respire la modernité alors qu'il est très inspiré de sculptures grecques datant de 400 ans avant Jésus-Christ. Le marbre tend l'épiderme, les formes se simplifient pour en montrer les pulsions premières. Bourdel casse l'académisme et ses corps à la perfection idéalisée. Jérôme Godot, commissaire de l'exposition.
Nous sommes devant le torse de Pallas, c'est 1905. Il est vraiment construit comme un cylindre, coupé exactement au niveau du triangle du sexe. Donc c'est vraiment une exaltation de la force sexuelle. Et en même temps, si vous voyez cette simplification des volumes, vous pensez immédiatement à Cézanne. C'est une œuvre très étrange. Si vous regardez le visage, ça reste encore un visage réaliste. Donc c'est comme si derrière le visage réaliste, il y avait toute la poussée de la sexualité à l'œuvre exprimée par cette densité et cette simplification des formes.
Ce retour aux formes premières se fait en même temps que Freud découvre l'inconscient et les pulsions du psychisme humain. L'exposition montre aussi cette recherche de formes antiques dans les sculptures de Modigliani, Brancusi, Germaine Richier et Picasso. Tous sculptent des formes d'où surgit le souffle de la vie, d'où surgit l'art moderne.
Bourdelle et l'antique jusqu'au 4 février au musée Bourdelle à Paris. Enfin, dernier mot de football. Je connais votre passion, Marc, pour le ballon rond. Le PSG qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue.
Pourquoi me dénoncer en direct
face à Amiens, parce que c'est vrai. Les Parisiens qui seront opposés à Rennes dans le dernier carré. L'autre demi-finale verra s'affronter Monaco à Montpellier. J'ai tout bon, je crois.
Merci, effectivement, vous avez tout bon. C'était le journal de Sébastien Legénie.